celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, ton alcoolémie et ton touchine. C'est tout ton vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille Info.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez, paniquez tout. Attends, paniquez pas.
Niquez tout.
Niquez tout. Paniquez, paniquez tout. Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi. Bonsoir, vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info. Ce vendredi, on est quelle date? Le 15?
On est le 15, oui, carrément.
Le 15 décembre. Alors, et de quoi va-t-on parler ce soir?
Eh bien, on va commencer par vous parler un peu logement-hébergement avec un petit retour sur la mobilisation des travailleurs et travailleuses sociales qui avait lieu hier.
Ensuite, on ira dans le national et on commencera par du nucléaire en vous parlant d'une danse étrange, la danse de l'uranium, et notamment les raisons des mystérieux transports du combustible de l'EPR de Flamanville.
Et on enchaînera toujours au national avec la grève à ArcelorMittal, qui est un mouvement qui dure malgré des réquisitions inédites.
Et puis on vous parlera d'une brochure pour se défendre contre les violences policières.
Et ensuite, on s'envolera, même si on ne prend pas vraiment l'avion, jusqu'au Panama pour vous parler d'une grande victoire. C'est la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale qui va fermer après une mobilisation historique.
Et toujours dans l'international, on vous parlera de la marée féministe qui est montée en Italie après le féminicide d'une étudiante.
Et de petites infos en plus, si on a le temps.
Voilà.
Et évidemment, comme maintenant tous les vendredis, il y aura une belle rubrique animaux qu'on ne spoilera pas.
Voilà. Et puis les traditionnels, le traditionnel agenda et le traditionnel aussi ACAB.
Évidemment. Et le jingle nucléaire s'est perdu, mais on est en train de le retrouver.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et donc, ben, comme on ne l'a pas annoncé, on va commencer par la rubrique nucléaire. Et donc, ben, du coup, je vais vous parler d'EPR. Vous savez, l'EPR, cette nouvelle techno de pointe qui n'a encore jamais fonctionné. Donc voilà, je vous parlais de l'EPR, ou plutôt de son combustible et des raisons des mystérieux transports orchestrés par l'EDF. Cet étrange balai a tout d'abord été révélé par le journal Ouest France, puis réanalysé et décortiqué par plusieurs personnes participant au réseau de surveillance citoyenne des installations nucléaires. Cela a d'ailleurs fait l'objet d'un article très intéressant que je vais vous partager maintenant et que vous pouvez retrouver sur le site du réseau Sortir du nucléaire. C'est donc fin octobre, que le journal Ouest France signale de mystérieux transports de combustible nucléaire quittant l'EPR de Flamanville en Normandie pour être renvoyé là où il a été fabriqué, dans la Drôme. L'article de Ouest France est fouillé et détaillé, étayé de plusieurs photos dont l'une montre un camion estampillé convoi radioactif quittant de nuit le site de l'EPR de Flamanville. EDF, interrogé par le média, confirme qu'il s'agit de recycler 17 assemblages de combustible initialement destinés à ce réacteur. Retour à l'envoyeur, Framatome, qui les a fabriqués dans ses usines de la Drôme à Romans-sur-Isère. Mais pourquoi ? EDF reste évasif et ne répond pas. Ou plutôt, répond « il n'y a pas de sujet combustible ». Alors évidemment, vous vous doutez bien que si, il y a bel et bien un sujet combustible, et pas des moindres. En tout cas, pour EDF, ce sujet n'existe pas. Mais, comme le retrace l'article de Ouest France, ce n'est pas ce que disent les découvertes faites ces dernières années en France sur des réacteurs en fonctionnement et à l'étranger sur les mêmes modèles de réacteurs que l'EPR. Ce n'est pas non plus ce que disent les dernières analyses de l'IRSN qui fait de nouvelles révélations dans un document publié récemment sur son site internet. En réalité, et quoi qu'en dise EDF, il y a bien une affaire combustible et une grosse. Corrosion accélérée, matériel hypersensible, défaut de conception, erreur de fabrication, rupture et rejet radioactif, problème pour charger la cuve, et j'en passe. Quand on fait le tour de cette affaire combustible, on comprend aisément pourquoi EDF préférerait la terre et pourquoi ces transports mystérieux ne sont pas si mystérieux que cela. Pour comprendre la nécessité pour EDF de retourner son combustible là où il a été fabriqué, il faut revenir sur les problèmes que pose le combustible nucléaire du réacteur EPR. L'article de Ouest France le fait d'ailleurs très bien en reprenant un à un les faits et les présentant de manière pédagogique. Pour faire marcher un réacteur nucléaire, il faut charger sa cuve de combustible, constitué de minerais radioactifs extraits du sol, que vous connaissez tous, l'uranium. Le combustible nucléaire n'est pas liquide, il est solide sous forme de petites pastilles. Ces pastilles sont empilées dans des tubes métalliques longs et fins qui sont appelés des crayons. Ces crayons sont ensuite assemblés par paquets. Ils sont mis dans une cage grillagée et dans laquelle ils sont maintenus par de petits ressorts. Chaque cage contient 265 crayons. Cet ensemble, appelé assemblage combustible, est immergé dans la cuve, dans de l'eau qui circule sous haute pression. Sauf que la cuve des réacteurs EPR a été mal conçue. Les mouvements de l'eau sont plus violents que prévu, les assemblages combustibles sont trop secoués, ils vibrent et frottent contre la cuve. Ce défaut de conception, EDF l'a identifié depuis longtemps, mais il n'en a pas tenu compte. Des faits dénoncés par la CRIRAD, un laboratoire indépendant de surveillance de la radioactivité, donc faits dénoncés par la CRIRAD dès 2021 et confirmés par l'IRSN en 2022. Les petits ressorts qui maintiennent les crayons en place dans un assemblage ont aussi des problèmes. Ils cassent parce qu'ils rouillent et ne résistent pas aux conditions extrêmes auxquelles ils sont soumis. N'étant plus maintenus par leurs ressorts, les crayons cassent à leur tour, à force d'être secoués contre une structure rigide. Les pastilles d'uranium se retrouvent alors hors de leur enveloppe, dans l'eau de la cuve, et libèrent des gaz radioactifs qui se répandent dans les circuits. Ces ruptures des crayons causent plusieurs problèmes. Des difficultés de maîtrise de la réaction nucléaire, puisque du combustible se disperse un peu partout, la puissance de la réaction nucléaire n'est plus homogène dans la cuve. Des surpressions dues à la présence de gaz radioactifs qu'il faudra relâcher dans l'atmosphère à un moment. C'est ce qu'il s'est passé sur l'EPR de Taishan en Chine en 2021. Des risques de dégradation supplémentaires car les morceaux de crayon cassés sont emportés par l'eau circulant à haute pression dans la cuve et dans le principal circuit de refroidissement. Ces débris peuvent abîmer et boucher les tuyaux dans lesquels circule l'eau et deviennent de véritables projectiles pour le combustible dans la cuve. Et puis, il y a un phénomène déjà observé sur plusieurs réacteurs en France, mais qui s'est aggravé sur le combustible des EPR, la corrosion accélérée. La paroi des crayons, cette gaine en métal dans laquelle sont empilées les pastilles d'uranium, rouille et se délite. Le métal se détache par petits bouts, comme une peau qui pèle après un coup de soleil. La gaine des crayons devient moins résistante et finit par se casser. Cette corrosion accélérée et ces pelades, EDF les avait déjà repérées en 2021 sur trois réacteurs français, à Chaux et Cattenom en région Grand Est et à Civaux en Nouvelle-Aquitaine. L'industriel avait fait état de corrosion atypique des gaines de quelques crayons de certains assemblages, de traces blanchâtres et de particules de couleur blanche, sans jamais donner d'explication ni esquisser les risques et conséquences de ces phénomènes. Mais grâce aux documents publiés récemment par l'IRSN, on sait que cette corrosion accélérée du combustible s'est aussi produite sur les EPR de Taishan et que ces assemblages étaient issus du même lot de fabrication que ceux destinés à l'EPR de Flamanville. Et qu'ils ont un gros problème, ils sont aussi hypersensibles. Et cette hypersensibilité, c'est cette hypersensibilité, qui explique les discrets renvois de combustible de l'EPR de Flamanville aux usines où ils ont été fabriqués fin octobre. Le métal utilisé est trop fragile, il manque de fer, il ne résiste pas aux conditions extrêmes auxquelles il est exposé dans la cuve, chaleur, radiation, variation de température, choc dynamique, milieu oxydant, hostile. Et les gaines des crayons se corrodent très vite, trop vite même. C'est aussi ce qu'explique l'IRSN dans son document publié début novembre. C'est à cause de cette hypersensibilité que EDF a dû renvoyer 17 assemblages aux fabricants, au risque sinon de provoquer les mêmes dégâts que sur les EPR chinois. En début d'année 2023, EDF avait déjà renvoyé 64 assemblages combustibles, car étant donné les défauts de conception et leur position très exposée dans la cuve, il fallait les renforcer. Au niveau de la structure grillagée pour mieux résister aux chocs et aux vibrations, et du métal utilisé pour mieux résister à la corrosion. Cependant, parmi les assemblages que EDF n'a pas fait changer, certains sont défectueux. Ils ont des crayons élaborés avec ce métal hypersensible, donc sujet aux pelades et à la corrosion accélérée. Or, ce phénomène, EDF ne le comprend toujours pas vraiment, précise l'IRSN. Comment le métal va résister? Combien de temps avant que les crayons ne cassent et provoquent tous les dégâts survenus à Taishan? EDF doit donc repenser entièrement son plan de chargement de la cuve de l'EPR, et c'est un véritable casse-tête. Quel assemblage mettre à quel endroit, étant donné les défauts de conception des uns et des autres? Les mouvements d'eau trop violents ici et là, les incertitudes sur la résistance du métal, d'autant que tous les assemblages n'ont pas été passés à la loupe par EDF. Si EDF a finalement exclu certains assemblages de combustibles hypersensibles pour les renvoyer à Framatome, il en a donc aussi gardé et compte bien les utiliser. Pourquoi ? Probablement car il n'est pas possible de tous les remplacer, le PR de Flamanville devant être chargé de combustible d'ici quelques mois. Pour utiliser malgré tout le combustible de l'EPR et faire démarrer son réacteur nucléaire, EDF va devoir mettre en place un programme de surveillance bien particulier et aussi lancer de nombreuses études pour mieux comprendre, entre autres, le phénomène de corrosion accélérée et la manière dont elle va affecter les crayons de combustible. Acquérir des données complémentaires est nécessaire car, comme le dit l'IRSN, le retour d'expérience ne permet pas, à date, une compréhension suffisante du phénomène. Et si certaines conditions permettront de limiter la corrosion accélérée, elle arrivera quoi qu'il en soit. Il faudra donc examiner visuellement chaque assemblage, aller mesurer l'épaisseur du métal des crayons, vérifier l'absence de gaz radioactif et de débris dans les circuits de l'EPR et décider si le combustible de l'EPR est réutilisable ou pas après quelques mois de fonctionnement. Mais pour l'IRSN, EDF devrait aller au-delà. L'industriel devrait étendre sa surveillance au combustible des autres réacteurs en France. Alors tout cela aura un coût, non seulement financier mais aussi matériel et humain, car ce genre de surveillance implique des activités sur des matières hautement radioactives. Dès que le combustible est utilisé dans la cuve d'un réacteur nucléaire, il change de nature, La fission des atomes de l'uranium donne naissance à de nouveaux composés chimiques. Ces produits de fission sont comme des cendres brûlantes. Ils sont les déchets les plus sales et les plus dangereux que produit la combustion nucléaire. EDF veut lancer le réacteur nucléaire le plus puissant qu'il n'ait jamais construit à l'aveugle sur la route, sans savoir comment va se passer, comment ça va se passer dans le moteur ni dans son réservoir, tant il y a eu de malfaçons et de réparations. En jonglant avec les défauts de conception par-ci et de fabrication par-là, en slalomant au milieu des phénomènes qu'il ne comprend pas vraiment, EDF va devoir conduire sa machine tout en douceur, éviter les coups de frein et d'accélération et les virages serrés, éviter les variations de puissance trop brutales et les arrêts d'urgence pour éviter la casse, qui ne serait pas seulement du métal et de la tôle froissée. Compliqué quand on se met au volant pour la première fois, mais EDF s'entête. Il faut dire que renoncer maintenant reviendrait à admettre qu'il est allé trop loin et qu'il est incapable de rattraper toutes ses erreurs. En dépit du bon sens, l'industriel persévère à vouloir coûte que coûte mettre son EPR en route et fonce tête baissée. Pas très responsable comme attitude, surtout quand le crash est susceptible de causer des dommages à tout le monde autour. Et tout de suite, on écoute un morceau de Ludwig von 88, Césium 137.
Nous, les gars de Pripyat, marchons tous la tête basse sous le vent de nos palaches. Une poussière flambée de honte, armentant sans sourciller. Avenue vidée de vie sur le sol où brûle la neige en particules assez traîtresses. Les monstres de notre laxisme.
j'ai été ministre du logement.
Chez moi, il n'y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
En Europe, la question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps. Ensemble.
Et oui, c'est l'heure de la rubrique droit au logement, et malheureusement de plus en plus c'est non droit ou non accès au logement. On va vous parler de la manifestation qui a eu lieu hier à l'appel du collectif Hébergement en danger, qui était soutenu par l'Intersquad, Jamais sans toi, le DAL, etc. De nombreux collectifs derrière, et donc qui appelait les travailleurs et les travailleuses sociales qui travaillent dans le secteur de l'hébergement à se mettre en grève et à manifester contre cette situation catastrophique qu'on observe à Lyon. La situation catastrophique, c'est qu'aujourd'hui, donc, le SIAO, donc le lieu d'enregistrement des demandes d'hébergement dans le Rhône, enregistre 14 000 demandes de personnes en demande d'hébergement sans solution dans le Rhône. Pour vous donner une idée, c'est une augmentation de 30% sur un an, donc c'est comme complètement stratosphérique. Dans le même temps où il y a de plus en plus de personnes à la rue, il y a aussi, on l'a vu récemment, des expulsions de squats et de logements qui sont répétées et de plus en plus brutales. Et aussi, du coup, cette espèce de système à la con de la vulnérabilité, où en gros, avoir un logement, ce serait parce qu'on est trop vulnérable pour être à la rue. Là où on se rappelle bien que, en fait, c'est n'importe qui est trop vulnérable pour être à la rue. La rue, c'est pas un lieu de vie. Du coup, aujourd'hui, c'est des petits contrats de 3 mois de plus en plus qui sont signés, où on met les gens vraiment très très temporairement à la rue. Et par exemple, une femme avec un enfant de plus de 1 an sera remise à la rue derrière. Ce que nous expliquent dans leur communiqué les travailleuses sociales du secteur de l'hébergement à Lyon, par exemple, c'est que là, récemment, il y a un couple, parce que du coup, évidemment, souvent les femmes sont hébergées pour 1 an avec les enfants. Au bout d'1 an, elle retourne à la rue, mais aussi un couple. Voilà, maintenant, au 28e jour de l'enfant, les personnes sont remises à la rue sans possibilité de négocier. Par ailleurs, il y a aussi dans toute cette situation la mise en place, vous savez, du SAS, parce que les Jeux Olympiques à Paris, c'est pas très joli qu'il y ait des gens qui vivent dehors, etc. Du coup, on les évacue, des gens qui commençaient peut-être à avoir des repères, qui commençaient à avoir une place, si dégueulasse soit-elle, c'était quand même la leur, et ça, c'est pas rien. Donc, on les évacue un peu, on les dispatche partout en France pour pas trop que ça se voit, parce qu'en vrai, avoir des gens dans la rue, a priori, ça gêne pas le gouvernement, ça gêne pas les préfectures, mais que ça se voit, ça, par contre, c'est un autre problème, surtout si ça passait à la télé, ce serait vraiment une catastrophe. Du coup, face à cette situation dramatique, il y a eu quand même une belle manif, et ça, on peut le dire, et c'est vraiment chouette de se dire, il y a eu quasiment 800 personnes qui étaient là, ce qui est extrêmement rare pour ce genre de manifestations qui ont déjà eu lieu auparavant, et du coup, c'est la manif où il y a eu le plus grand nombre de personnes présentes, et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Malheureusement, pour l'instant, la préfecture reste sur des positions très bloquées. Du coup, la délégation qui a pu rencontrer le sous-préfet, puisque Buchot avait probablement autre chose à foutre, manger des petits fours avec Vauquier ou que sais-je, est revenue. Et parmi les demandes du collectif, il y avait la création en urgence extrême de 2000 places, là tout de suite maintenant, ce qu'on sait qui est tout à fait possible. On l'a vu pendant la crise du Covid, bizarrement, tous ces efforts qui étaient impossibles à faire ont pu être faits en un temps record. Évidemment, la réquisition des logements vacants, qui sont toujours 53 000 sur la métropole de Lyon, d'après l'INSEE, hein, qui est a priori pas un gros repère de bolcheviques. Et aussi le fait d'arrêter de demander, puisque de plus en plus les pressions sont faites par l'État et via la préfecture aux travailleurs et aux travailleuses sociales de faire remonter les situations administratives des personnes, sachant qu'il y a déjà un pré-tri sur les personnes qui ont tous leurs droits et d'autres qui en ont moins, mais surtout pour ces histoires de QTF, on demande en fait aux gens qui sont là pour être hébergés de donner leurs informations aux personnes qui travaillent, qui les feraient remonter à la préfecture. Et en fait, c'est là le gros problème, parce que au-delà d'avoir refusé toutes les exigences du collectif, la préfecture a surtout dit, non seulement on s'en fout de ce que vous demandez, mais surtout, aujourd'hui, pour nous, la question, c'est pas de savoir si on va créer des places d'hébergement, ça c'est clair, il y en a de moins en moins, et il y en aura de moins en moins, et d'autant plus pour les personnes qui n'ont pas tous leurs droits ouverts, mais c'est surtout de... comme eux, ils considèrent, enfin ils considèrent, ils nous mentent, on sait très bien, mais en tout cas, leur ligne de défense, c'est de dire le gros problème, s'il y a tant de gens à la rue, c'est parce qu'il n'y a pas assez de fluidité dans l'hébergement. Par fluidité, faut entendre, on rentre dans l'hébergement d'urgence, hop, on y reste le moins longtemps possible, parce qu'après, d'un coup, on est réinséré comme par magie, et après, on trouve un logement dans le parc privé ou dans le logement social. Quand on connaît l'état à la fois du logement social, qui est complètement saturé de ouf pour tout le monde et qui est de plus en plus cher, hein. Par ailleurs, le logement social, maintenant, pour les gens les plus pauvres, c'est inaccessible. Et surtout, le fait que le parc privé soit aussi complètement inaccessible à n'importe quelle personne qui ne souhaite pas forcément vivre à 10 dans un petit appart ou pas. Et du coup, voilà, ça, c'est la justification. Et surtout, ce que vient nous raconter la PREF, c'est que, soi-disant, ce qui bloquerait cette fameuse fluidité de l'hébergement, c'est les personnes sans papier, et en particulier celles qui auraient des OQTF, toute ressemblance avec le discours habituellement de Darmanin, n'est pas fortuite. Et en gros, ils vont fonder toute leur ligne de défense sur le fait qu'il y a un maximum de gens à la rue, sur le fait que c'est à cause des gens qui auraient des OQTF qui bloqueraient toutes les places en hébergement. On rappellera, par ailleurs, il y a un certain nombre de statistiques qui sont faites, que les personnes sans papier représentent moins d'un tiers des gens qui sont à la rue, a priori. Et du coup, les personnes sans papier avec des OQTF, c'est négligeable. Voilà. Mais du coup, face à ça, ce que dit la PREF, c'est qu'en gros, pour eux, la question, c'est pas du tout de... Enfin, qu'il y ait des places, en fait, en hébergement. Peut-être que le logement soit assez accessible et que tout le monde puisse avoir une maison. C'est de réfléchir à comment est-ce qu'ils vont faire pour foutre dehors, parce que c'est ça dont il s'agit, et remettre à la rue toutes les personnes qui seraient sous OQTF et qui seraient hébergés. Au-delà de la dégueulasserie absolue et du départ du problème, ce que ça veut surtout dire, c'est que par ces manœuvres-là, c'est tout simplement la fin du droit inconditionnel à l'hébergement et au logement, puisque, a priori, si avoir un logement, ça fait que vous êtes signalé au DEC et qu'en fait, on vient vous chercher pour vous foutre dehors, votre droit au logement, il est complètement piétiné et annihilé. Et ça, c'est malheureusement toute la stratégie. C'était dans la loi immigration de Darmanin, en tout cas quand elle est sortie du Sénat, ça a été enlevé. Bon, on a malheureusement fort peur qu'elle revienne avec les rebondissements qu'on a connus cet été. Et par ailleurs, en pensant un peu aussi, même si leur situation est évidemment moins grave, aux salariés, ça veut dire des salariés qui bossent en centre d'hébergement qui vont être amenés peut-être à être obligés à faire remonter des infos aux flics pour que les flics puissent venir expulser les gens. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Voilà, du coup, une fois encore, une belle manif. C'était chouette de se dire qu'il y avait beaucoup de monde. Le résultat, là, sur cette fois-là, il n'est pas probant. Et en tout cas, il a au moins permis à la PREF, il nous a permis d'avoir clairement que la préfecture se positionne, et au moins leur plan, il est clair, il est net, et il n'y a pas de discussion là-dessus. Et c'est surtout que c'était une manif une fois, mais qu'il y aura bien d'autres moments pour aller faire le contre-pouvoir sur ces décisions qui sont à la fois ignobles et racistes. Et en tout cas, que dans ce genre de situation, baisser les bras, c'est certainement pas une option, quand on voit le nombre de personnes que ça va mettre dans la merde, et surtout la négation totale du droit fondamental à l'hébergement pour toutes et tous.
Canu Info.
Gendarmerie nationale, arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info. National.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et on va commencer ces infos nationales en vous parlant d'une grève chez ArcelorMittal. Parce que depuis le 4 décembre, de nombreux salariés de la production sont entrés en grève, donc chez ArcelorMittal France. Malgré des réquisitions de grévistes inédites dès le deuxième jour du conflit, des débrayages quotidiens ont lieu et le site de Dunkerque ne produit plus. On avait envie de revenir sur ça parce que les temps sont durs, c'est sûr, mais les gens continuent de se mobiliser et les grèves peuvent perdurer. Et donc on a envie de leur donner un peu de la voix. Il y a plus une tonne d'acier qui ne sort donc du site de Dunkerque. Et hier soir, le 14 décembre, les salariés de la production d'ArcelorMittal France à Dunkerque ont décidé de continuer un mouvement de grève qui dure déjà depuis 10 jours. C'est une nouvelle phase du conflit puisque les négociations annuelles obligatoires sont terminées. Ça, c'est des négociations qu'il y a un peu chaque année pour parler des conditions de travail des salariés. La direction du groupe a trouvé un accord avec la CFDT et la CFE-CGC, qui représentent à elles deux 60% des voix exprimées aux élections professionnelles, mais la CGT, qui est le premier syndicat du groupe, en compte 40. Ce sera 3,7% d'augmentation générale avec un talon, donc une somme minimale de 100 euros brut. C'est là-dessus qu'ils se sont accordés dans les négociations annuelles obligatoires. Mais la CGT, ça ne lui suffit pas, elle dit, mais nous comptons bien obtenir davantage par le rapport de force. Et oui, le syndicalisme, ça sert aussi à ça. C'est ce que nous dit Philippe Webeke, qui est responsable syndical pour la CGT ArcelorMittal Dunkerque et coordinateur national CGT de la filière de la sidérurgie. Et donc, depuis le 4 décembre, le syndicat revendique une hausse de salaire mensuelle de 300 euros brut. C'est à la fois nécessaire au regard du niveau de l'inflation, mais aussi des bénéfices du groupe. Je rappelle qu'ArcelorMittal verse 800 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires, indique le syndicaliste. Puisque les 10 jours de grève précédentes ne sont pas parvenus à faire plier la direction, la CGT-AMF dunkerquoise joue la carte de l'élargissement et relance, du coup aujourd'hui, ce 15 décembre, un appel à la grève à destination de tous les sites du groupe AMF, mais aussi de ses filiales. En fait, il y a environ 7000 salariés dans le groupe, sans compter les intérimaires. Entre 3000 et 4000 sont des ouvriers de production. Ce sont eux qui répondent le plus souvent aux appels de la CGT. C'est pas facile de dire combien ont réellement débrayé. Mais à Dunkerque, on fabrique des bobines revêtues de zinc, on doit avoir 50% de grévistes en production et nos deux hauts fourneaux principaux ne produisent plus, dit le syndicaliste. La grève s'est aussi étendue dans plusieurs filiales du groupe, comme Industil ou ArcelorMittal Construction France. C'est quelque chose que nous avons travaillé en amont, même si les négociations annuelles obligatoires sont différentes. La manière dont se déroulaient les négociations dépend fortement de celle dont se sont déroulées les nôtres. Alors, autant lutter en même temps. Dit toujours le syndicaliste, c'est ça, c'est vrai, souvent, il y a des personnes qui travaillent dans des grosses boîtes et les luttes sont locales, et que c'est une vraie force de réussir à les rendre globales, en tout cas au niveau d'une grosse entreprise. Ce niveau de grève, la CGT-AMF l'explique en partie par le niveau de répression inédit qui a frappé les grévistes. Il y a eu une réquisition après seulement un jour de grève, ce qui s'était un peu jamais vu. Donc dès la nuit du 4 au 5 décembre, les forces de l'ordre se sont rendues au domicile de 5 grévistes afin de leur notifier leur obligation de reprendre le travail le lendemain. Une pratique que l'on a l'habitude de voir à l'œuvre lors de conflits longs, comme les grèves de raffineurs ou d'éboueurs. Elle permet de contourner le droit de grève si l'on va à l'intérêt général des usagers. Cette fois, la préfecture prétexte des raisons de sécurité, ce que conteste la CGT. Ces salariés n'étaient pas particulièrement nécessaires, dit la CGT. D'ailleurs, ils ont pu rentrer en grève les jours suivants. On suppose que c'est avant tout un coup de pression d'un membre un peu zélé de la direction qui a voulu gonfler les muscles. Pour des raisons de sécurité, des effectifs minimums doivent être présents sur le site, sans pour autant remettre en cause le droit de grève. Les salariés qui ont fait l'objet de réquisitions faisaient partie de ces effectifs et ont quitté leur poste. Ils savaient que leur présence était obligatoire. Toujours est-il que la préfecture n'a pas réitéré ces réquisitions qui ont commencé au début du mouvement, ce qui était clairement des manœuvres d'intimidation mais qui n'ont pas marché. Pour le coup, elles ont décuplé la colère des salariés et du coup on leur souhaite bon courage et que cette grève fonctionne et qu'à minima, du coup, ils obtiennent ces 300 euros bruts d'augmentation mensuelle. Tout ça pour rappeler surtout qu'il est possible de se mobiliser et qu'il est aussi possible de tenir malgré la répression qu'on voit de plus en plus illégale qui s'applique sur tous les corps de métier.
Et ben, en parlant de répression illégale, on est pile dans le thème de ce dont on va vous parler maintenant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les violences policières, ça existe. Et que malheureusement, elles sont de plus en plus nombreuses. Et que surtout, les keufs bénéficient d'une très très forte impunité face à la justice. Face à tout ça, il y a flagrant déni dont on vous relaie les articles régulièrement, qui s'est dit, mais c'est que c'est quand même un merdier, et c'est vrai, l'institution judiciaire, une fois qu'on s'est fait taper par des flics, c'est un bordel sans nom, et pour s'y retrouver, il faut quand même un sacré courage. Et du coup, face à ce constat, c'est flagrant déni qui publie ce qu'ils appellent le 17. Alors pour une fois, on va pas dire fuck le 17, on va rester sur le 17 de flagrant déni, que celui-là on aime bien, qui est un guide qui est extrêmement exhaustif sur que faire en cas de violence policière, alors sur le côté juridique, du moment où vous faites taper dessus jusqu'au moment où votre plainte est soit déboutée, soit passe au tribunal, etc. Ça veut dire que évidemment, il y a comment est-ce qu'on fait pour ramasser les preuves. Il y a tout un tas de jurisprudence, il y a des circulaires qui n'avaient pas été publiés jusqu'alors. Et comment faire du jour des faits à la Cour européenne des droits de l'homme si vraiment vous avez envie de pousser le plus loin possible et de ne pas lâcher l'affaire. Évidemment, le tout est ni ici ni dans le 17 d'ailleurs, a pour but de pousser qui que ce soit à porter plainte, parce qu'on sait ce que ça peut être aussi de porter plainte et de se mettre mal. En tout cas, si vous avez envie de le faire, vous pouvez vous rendre sur flagrantdeni.fr et vous trouverez assez vite ce guide et qui pourra vous guider dans toutes les étapes avec plein de ressources de partout, qui contacter, des collectifs qui pourront vous soutenir où vous soyez en France. Et en fait, c'est quand même vraiment assez ouf le boulot. C'est 25 personnes qui ont bossé dessus pendant un an pour produire ce truc-là avec vraiment un maximum de choses. Alors peut-être faut pas lire juste après vous êtes fait tabasser, puisque c'est assez dense et c'est plein de références justement au monde de la justice pour pouvoir un peu se démerder là-dedans. Mais en tout cas, c'était un guide qui n'existait pas aussi exhaustif en France, à part peut-être des petites brochures, mais là, vous pourrez vraiment tout savoir, en tout cas tout ce qu'ils ont pu trouver. En tout cas, moi j'ai appris plein de trucs en lisant sur comment faire si jamais vous faites tabasser par un flic et que vous avez quand même envie de vous défendre à ça et d'utiliser l'appareil judiciaire pour le faire.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et on commence avec une victoire.
Oui.
Et oui, au Panama, ils ont réussi, en tout cas pour l'instant, à faire en sorte que la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale ferme grâce à une mobilisation historique. Donc après plus d'un mois de blocage et de contestation inédite dans tout le pays, la Cour suprême de justice du Panama a donné raison aux manifestants et aux manifestantes le 28 novembre. Elle a jugé inconstitutionnel à l'unanimité le contrat qui prolonge les droits de l'exploitation de Cobre Panama, la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert d'Amérique centrale, exploitée par la société canadienne First Quantum Minerals. Alors, suite à ce jugement de la Cour suprême, le président Laurentino Cortizo a promis d'engager le processus de transition pour une fermeture ordonnée et sûre de la mine. Donc, déclaration mettant fin aux espoirs de First Quantum Mineral de renégocier l'exploitation de la concession minière. Mais la société d'exploitation ne lâche pas pour autant l'affaire, puisqu'elle a fait savoir au ministère du Commerce et des Industries qu'elle entendait déposer un recours auprès du tribunal d'arbitrage mis en place par le traité de libre-échange entre le Panama et le Canada. Le gouvernement a répondu qu'il était préparé pour défendre les intérêts nationaux du pays. Mais attention, le PRES va quitter ses fonctions dans 7 mois. Et il était quand même très favorable au projet de renouvellement, notamment en déclarant juste avant les grosses mobilisations, donc en déclarant que le non-renouvellement du contrat d'exploitation induirait une perte de 8000 emplois directs et 40000 emplois indirects, donc liés à la mine. Et du coup, ces déclarations avaient surtout réussi à gonfler la mobilisation. Et très vite, pas mal de syndicats ouvriers, les médecins, les représentants des secteurs du transport, etc., se sont joints à la contestation. Et les revendications se sont d'ailleurs élargies au fur et à mesure des manifestations. Il faut savoir aussi que la population du Panama est d'autant plus inquiète de l'impact de la mine à ciel ouvert et sensible aux arguments des écologistes que le pays traverse depuis le début de l'année une sécheresse sans précédent. Les autorités du canal de Panama ont annoncé deux nouvelles restrictions à la navigation sur la voie d'eau douce qui relie l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Et l'approvisionnement en eau douce de la population est également mis en péril. Alors je vais revenir un peu sur ce mouvement. Il a démarré le 20 octobre dernier. Ce jour-là, l'Assemblée nationale votait sans vrai débat la loi 406 validant le contrat minier signé avec la société canadienne qui étendait donc pour une durée renouvelable de 20 ans, donc potentiellement 40, les droits d'exploitation sur un terrain de 13 000 hectares au cœur du couloir biologique mésoaméricain, une zone protégée, vitale à la survie de dizaines d'espèces migratoires. Mais pour la société canadienne, c'est surtout une région riche en minerais. S'ensuit du coup des manifestations quasi quotidiennes qui ont touché toutes les régions. Des barrages sur les routes ont perturbé les transports et l'approvisionnement des villes. L'unique route permettant le passage de l'Amérique du Sud vers le Nord est restée infranchissable pendant plus d'un mois. Le gouvernement du Salvador est allé jusqu'à demander la mise en place d'un couloir humanitaire pour les nombreux chauffeurs routiers coincés. Au total, les pertes économiques pour le Panama s'élèvent à plus de 1,7 milliard de dollars. Il s'agit d'un mouvement d'ampleur inédit au Panama qui a malheureusement causé la mort de plusieurs personnes, notamment le 7 novembre, où un ancien avocat américain, Kenneth Darlington, a abattu deux militants écologistes car il était bloqué à un barrage routier. Donc le bonhomme rentrait chez lui après avoir fait quelques courses dans la ville d'à côté et il n'était pas du tout, mais alors pas du tout content de se faire kéblo. Il a alors menacé les manifestants et les manifestantes et tenté de dégager la barricade juste avant de sortir son arme à feu. Avant de tirer, il aurait dit « ça s'arrête aujourd'hui ». Toute la scène a été filmée, l'un des manifestants, Abdiel Diaz, est décédé sur place, tandis que son comparse, Ivan Rodriguez, est décédé à l'hôpital. Et c'est d'ailleurs suite à ces deux assassinats que le gouvernement a proposé un référendum sur l'exploitation de la mine, afin de calmer la colère des manifestants et des manifestantes. Référendum refusé par le tribunal électoral, remettant ainsi le sort de la prolongation du contrat minier entre les mains de la Cour suprême de justice, avec la décision que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'inconstitutionnalité de la concession minière. Mais ce n'est pas la première fois que la Cour suprême se prononce sur la mine. Alida Spadafora, qui dirige l'Association nationale de conservation de la nature, explique que l'exploitation de la mine et de ses réserves d'or a démarré en 97. Dans des conditions opaques. Les écologistes se sont mobilisés immédiatement, mais l'opinion publique n'a pas suivi. En 2017, la Cour suprême déclarait cette première concession minière inconstitutionnelle au motif qu'il n'y avait eu ni appel d'offres, ni consultation de la population locale. Les avocats du gouvernement et ceux de la compagnie minière ont multiplié les recours. Le gouvernement a ensuite choisi une procédure accélérée. La loi attribuant la concession a été débattue, votée, puis promulguée en seulement 3 jours. Et donc, le 28 novembre dernier, une nouvelle fois, la Cour suprême classe inconstitutionnelle la concession minière grâce à une formidable mobilisation. Et on espère que cette fois, ça sera définitif.
On va aller du côté de l'Italie maintenant, où on peut moins parler de victoire, puisque on va vous parler d'une marée féministe qui monte, mais qui monte après le féminicide d'une étudiante. En effet, en Italie, le féminicide d'une étudiante de 22 ans par son ancien petit ami provoque une mobilisation sans précédent. À Padoue, donc, mardi 5 décembre, ils sont venus par milliers, 10 000 selon les médias, rendre un dernier hommage à Giulia Cecentin dans la ville où elle étudiait le génie biomédical. Elle était portée disparue le 11 novembre et la jeune femme a ensuite été retrouvée morte une semaine plus tard, assassinée. Gino Cecentin, le père de la victime, déplie la feuille sur laquelle il a écrit son discours. Et là, il lit « Le féminicide est souvent le résultat d'une culture qui dévalue la vie des femmes. Je m'adresse d'abord aux hommes, car nous devrions être les premiers à démontrer que nous sommes des agents de changement contre la violence de genre. » Parmi la foule qui l'écoute depuis les écrans géants, certains essuient leurs larmes. Ces mots sont un dernier écho à ceux prononcés quelques semaines plus tôt par sa fille aînée, Elena Tchetchentine. Face aux caméras de télévision, elle répète ce qu'elle a écrit dans une lettre publiée par le quotidien Corriere della Sera à propos de l'assassin de sa sœur. Ce n'est pas un monstre. Un monstre est une exception, une personne hors de la société, une personne dont la société ne doit pas assumer la responsabilité. Les monstres sont des enfants du patriarcat, de la culture du viol. Les réactions à ce texte avaient été immédiates. Elena Tchetchentine subit depuis des attaques d'une violence inouïe sur les réseaux sociaux, mais aussi de la part d'hommes politiques qui la prennent publiquement à partie. Son attitude de guerrière a allumé l'étincelle du feu qui a suivi, estime Alice Bertocchio. Cette étudiante de 24 ans à l'université de Padoue milite au sein du collectif transféministe Artemisia. Elle a utilisé des mots comme violence patriarcale, violence de genre, c'était une première. Elle a politisé cette tragédie, s'est affranchie du silence que le patriarcat impose aux femmes qui doivent pleurer et souffrir en silence et qui n'auraient pas la puissance et l'autorité pour intervenir dans l'espace et le débat public. Ajoute Cécilia, militante au sein du collectif transféministe No Una Di Meno de Padoue. Les deux militantes font partie des dizaines et des dizaines d'organisatrices qui, du nord au sud du pays, ont permis une mobilisation sans précédent. Dès l'annonce de la découverte du corps de Giulia, une première manifestation est organisée à Padoue. C'est le 20 novembre et là il y a près de 15 000 personnes qui défilent dans la ville. Le cortège n'a pas grand-chose à voir avec une marche blanche. Plutôt qu'une minute de silence, faites une minute de bruit pour Giulia, exhorte sa sœur Elena. C'était un mélange de tristesse mais surtout de colère qui a fait avancer la foule. Quelques jours plus tard, les manifestations organisées à travers le pays pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes réunissent des centaines de milliers de personnes. À Rome, il y a un demi-million de personnes qui défilent. C'est du jamais vu. Le lendemain, le collectif Artemisia organise une promenade en colère à Vigo Novo, la petite ville de Vénétie où habitait l'étudiante de 22 ans. Il y a ce soir-là, tout comme le matin des obsèques, des habitants de la ville, des étudiants, des personnes âgées, des familles, des militants, des militantes. En quelques jours, le fait divers sordide est devenu un fait social, jusque dans cette Italie de province peu habituée aux mobilisations féministes. Le féminicide de Giulia est le 105e des 110 qui ont émaillé l'année 2023. Les crimes liés à la mafia, par exemple, ont drastiquement baissé, alors que des politiques ad hoc ont été adoptées après l'assassinat des juges Falcone et Borsellino au début des années 90. Contextualise Mariangela Zani, présidente du centre anti-violence de Padoue, qui écoute et accompagne les femmes victimes de violences. En Italie, l'auteur de la violence est toujours un homme qui pète les plombs. C'est impensable que ce soit un bon garçon que tout le monde peut avoir à la maison. Depuis 10 ans, le chiffre des féminicides, lui, oscille entre 100 et 130 chaque année. Les politiques répressives n'ont servi à rien. L'État n'a pas su intervenir. L'impunité sociale est forte. Depuis un mois, de nombreux médias nationaux tournent en boucle sur le sujet, n'épargnent aucun détail intime, ni sur la victime, ni sur le meurtrier. Il a d'abord été présenté comme un bon garçon. Aurait-il pu faire du mal à son ex ? Impossible, répondent les témoignages publiés par la presse. Le récit médiatique a été celui d'une telenovela à suspense. Il a été romantisé une relation dont on craignait déjà que l'issue ne soit un féminicide. En réalité, le bon garçon avait pris la fuite vers l'Allemagne après avoir caché le corps de son ancienne petite amie. La couverture médiatique a nourri la flamme, résume Alice Bertocchio. La violence médiatique, c'est aussi la construction de féminicides de série A ou de série B, selon les caractéristiques des victimes. L'été avait déjà semé ses graines. À Palerme, en Sicile, puis à Caivano, dans les banlieues défavorisées de Naples, des victimes ont raconté leur viol collectif. Là encore, aucun détail n'avait été épargné. Dans un cas comme dans l'autre, les auteurs présumés répondent à l'imaginaire collectif. Un contexte social défavorisé, leurs propos repris par la presse, qui nourrissent un peu les profils de la meute ou des bêtes. Cela maintient à distance les faits. En Italie, l'auteur de violence est toujours un monstre, un homme qui pète les plombs ou a des problèmes. C'est impensable que ce soit un honnête citoyen, un bon garçon que tout le monde peut avoir à la maison, ton fils, ton neveu, ton ami. Depuis l'un des bureaux du rez-de-chaussée de la grande maison qui accueille le centre anti-violence, Mariangela Zani raconte ses appels de femmes toujours plus nombreux. Ils ont triplé depuis que le corps de Giulia a été retrouvé. On a reçu 86 demandes d'aide en 2 semaines. L'année dernière, c'était 1127 femmes qui ont été suivies. Là, on parle juste d'un centre qu'il y a dans une ville. Depuis des années, on parle de la partie immergée des victimes. Là, leur récit émerge. C'est positif, mais c'est aussi une énorme responsabilité. Et notre situation économique est précaire. Les financements insuffisants, ça nous complique la tâche. Il faut savoir qu'en Italie, 90% des femmes assassinées le sont dans le cadre d'une relation intime. Et les 18-30 ans représentent 20% des femmes suivies par les centres anti-violence de Padoue. De concert, toutes les militantes demandent des financements à la hauteur pour les centres anti-violence du pays. Toutes pensent déjà à l'après. Nous revendiquons une éducation sexuelle et affective dans les écoles. Il faut travailler sur les relations et les stéréotypes de genre enseignés dans une société patriarcale. Cela doit être accompagné par des mesures économiques pour garantir aux femmes d'être autonomes. Donc à plus grande échelle, nous soutenons des mesures comme un revenu d'autodétermination ou un salaire minimum. Tout ça pour vous dire que sur fond de violence extrême, les personnes, elles ont réussi à s'organiser, elles ont réussi à se mobiliser. Et on espère que la culture du viol sera toujours médiatisée et évidemment dénoncée.
D'Antarctique. Voilà. Ah oui, on m'entendait pas. Du coup, je disais qu'on va parler de manchots d'Antarctique, car ils sont à la une de la revue américaine scientifique Science. Et c'est une étude qui est dirigée par un scientifique, le Lyonnais, qui révèle que ces oiseaux sont des maîtres en matière de sommeil fragmenté. Ils dorment quand même plus de 11 heures par jour.
Ça a l'air super.
C'est très inspirant pour l'hiver. Donc, encore plus fort que les navigateurs et leurs micro-siestes de 15-30 minutes lors de courses à la voile, le manchot d'Antarctique. Parce que ils ont été observés par des chercheurs du CNRS de Lyon et ils ont observé que 14 manchots, donc dit les manchots à jugulaire, qui vivent sur l'île du roi George en Antarctique. Alors, bon, pour savoir tout ça, ils ont installé sur leur dos des électrodes pour identifier le moment où ils dorment, soit debout, soit couché, et ils se sont rendus compte que ces manchots, ils dorment jamais très longtemps, 34 secondes au maximum, et en moyenne 4 secondes. Et quand ils sont en mer, il leur arrive même de somnoler sur les vagues entre deux tentatives de pêcher un poisson. Donc ces oiseaux vivent presque en continu dans cet état de micro-sommeil, puisqu'ils s'endorment environ 600 fois par heure, soit 11h30 de sommeil sur 24 heures. Ces siestes sont plus courtes et plus fréquentes pendant la période de nidification quand les oiseaux protègent leurs œufs et leurs poussins. Donc à ce moment-là, une cacophonie règne autour d'eux. Il y a un chercheur qui rédit que c'est bruyant, c'est puant et c'est bondé. Voilà. Donc, il faut éviter les attaques d'oiseaux de mer ou les agressions d'autres manchots. Les parents doivent alors rester alertes et vigilants en permanence. Pour résumer, en gros, ils font à peu près 10 000 micro-siestes par jour, de seulement quelques secondes. C'est quand même pas rien. Et c'est la première fois qu'on observe un sommeil aussi fragmenté chez un être vivant. Voilà. Et qu'a priori aussi, ils sont en bonne santé. Voilà. Qu'a priori, c'est parce que c'est étonnant quand même, parce que c'est réparateur, ces micro-siestes. Eh bien, il semblerait, c'est pas sûr, mais a priori, les manchots observés avaient l'air d'être en bonne santé. Pour nous inspirer pour l'hiver.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda!
Et oui, c'est l'agenda. Alors peut-être vous ferez des petites siestes aussi entre les divers événements ou peut-être que vous resterez chez vous. Mais en tout cas, sachez que demain, samedi 16, du coup, il y a un rendez-vous Place Bellecour à 14h pour demander un cessez-le-feu à Gaza, pour Gaza et la Palestine. Donc rendez-vous 14h, Place Bellecour. Ensuite, après cette petite manif, vous pourrez bien aller à la soirée de soutien à un médic blessé par la police. Ça se passe du coup évidemment aussi samedi 16. Et il y aura crêpe, bar, tombola, jeu, DJ set. Ça ouvre à 18h30 et c'est à l'Illégalité, au 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne. Le lundi 18 décembre, on l'évoquait brièvement, il y a la manifestation contre le projet de loi Darmanin, 18h30 à 21h, c'est Place Bellecour, venez nombreux et nombreuses pour jeter ce texte dégueulasse à la poubelle. Le mercredi 20, parce que le mardi c'est micro-sieste a priori, il y aura des ateliers d'écriture aux prisonniers et prisonnières, ça se passe à la Griffe et c'est à partir de 18h. Et peut-être y a-t-il une erreur, ou en tout cas peut-être en parallèle, il y a un arpentage du livre Du Silence qui est organisé aussi à la Griffe à 18h30. Pour finir, alors certainement vous irez pas, ou peut-être que si, à Paris, sachez que le vendredi 22 décembre, c'est le jour de rendu du jugement du procès du 8-12. On vous en avait parlé à plusieurs reprises sur comment le parquet antiterroriste se saisit de gens qui font de l'airsoft en fait avec leurs potes à la campagne. Bref, en tout cas, si jamais vous êtes à Paris, sachez que toute la journée, du coup, il y a une journée de soutien à ces inculpés pour mettre la pression et espérer que le jugement soit une relaxe totale.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Terre, j'ai 2 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes.
Canu Info du vendredi.
Et alors ça veut dire quoi à Cab?
Eh bien, alors, je crois qu'on a eu plusieurs appels. Il y en a un qui nous a dit que ça voulait dire « Arrêtons les combustibles et annotons nos brochures
». Wow. Ça, c'est un petit truc de l'hiver, un peu, j'ai l'impression.
Et je crois qu'il y a un autre appel qui disait « Arrêtons la corrosion d'ArcelorMittal et battons-nous ». C'est pour le côté plus punchy des choses, mais en gros, il faut quand même arrêter des choses.
Ouais, il y en a eu un autre aussi, c'est l'association des crayons à bannir.
Eh ben, c'est la fin de l'émission, il est 20h, là tout de suite je crois que c'est de la valse ou du tango, je ne sais plus trop, qui va suivre. En tout cas, sortez vos chaussures à talons et préparez vos plus beaux pas de danse, parce que c'est l'heure de Noise Pollution, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut,
ciao.
Salut. Bonne soirée.